hijo a la iglesia, en la misión y el servicio de la iglesia. Nos rodeamos todos juntos hoy, Manolo, con mucho afecto, y recemos con tanta fe y tanta confianza en la misericordia de Dios Todopoderoso, los que seamos el Señor por él. Le preguntamos al Señor la abundancia de la gracia por tu servicio, tu ministerio diaconal hoy. Bienvenue à tous qui ont trouvé Manolo au jour de son ordination diaconale pour le service du diocèse de Bayonne d'Escaveloron. Je mesure évidemment le don que le Seigneur fait à notre Église de nous envoyer un nouveau diacre en vue du sacerdoce pour le service du peuple de Dieu qui est ici, à Bayonne d'Escaveloron. Comme vous le savez, chers frères et sœurs, la trilogie évêque, prêtre, diacre structure la vie de l'Église depuis la plus haute antiquité chrétienne. Saint Ignace d'Antioche, comme nous l'avons vu cette année, en est un témoin privilégié dans ses lettres si émouvantes qu'il écrit aux églises qu'il traverse alors qu'il est mené à Rome enchaîné pour y subir le martyre. Nous sommes à la fin du 1er siècle, au tout début du 2e. Et nous savons que cette trilogie, que nous appelons aujourd'hui les trois degrés du sacrement de l'ordre, est fondée dans la révélation, comme l'attestent le Nouveau Testament en particulier, les Actes des Apôtres et les écrits de saint Paul. Diacre, diakonos en grec, comme tu le sais, Manolo, parce que tu as fait du grec, et tu as certainement une très bonne note. Diakonos, cela signifie serviteur. Très important pour nous, n'est-ce pas? Parce que la première configuration qu'accomplit en nous, que nous soyons diacre, prêtre ou évêque, le sacrement de l'ordre, est une configuration au Christ serviteur, qui, d'après saint Paul, définit même le mystère de l'incarnation lorsqu'il nous dit que lui, qui était de condition divine, s'anéantit lui-même pour prendre la condition de serviteur et il dit même d'esclave. Jésus assumait parfaitement la figure du serviteur souffrant tel qu'il est annoncé dans le prophète Isaïe. Le serviteur souffrant de Yahvé. Jésus dira lui-même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Nous comprenons bien, chers frères et sœurs, que le service spécifique qui est demandé au diacre, à Manolo aujourd'hui, au prêtre qui m'entoure, l'évêque que je suis, c'est de donner sa vie en rançon pour la multitude, comme le Christ, mais avec le Christ. Donner toute sa vie jusqu'au martyr s'il le faut. Ton engagement aujourd'hui au célibat est le signe le plus éloquent du don que tu es prêt à faire de ta vie avec le Christ, ayant bien conscience de tes limites, de ta faiblesse de pécheur, ayant bien conscience de ce monde difficile dans lequel nous sommes immergés avec ses multiples tentations. Mais tu sais, toi, que si tu es avec le Christ et si tu donnes ta vie avec lui, tu trouveras toujours la force d'être fidèle au célibat sacerdotal. Tu puiseras sans cesse dans la grâce du Seigneur, en particulier dans le sacrement de pénitence et de réconciliation, la grâce d'être uni au Christ pour pouvoir donner ta vie, car c'est là ton service. Nous savons dans quel contexte les diacres ont été institués par les apôtres, tels que les Actes des Apôtres nous le rapportent au chapitre 6e, pour ne pas délaisser ce qui est le cœur même de leur service spécifique, celui de la prédication. celui de la prière, et en particulier liturgique et sacramentelle, ils ont institué des diacres par le don de l'Esprit-Saint et l'imposition de leurs mains pour qu'ils puissent les seconder dans le service des tables, c'est-à-dire la diaconie de la charité, la distribution du pain matériel aux plus pauvres et aux plus démunis, étant ainsi les instruments de l'unité autour de la table de la communauté, de la communion. Mais nous savons en même temps que la diaconie de la charité est indissociable de la diaconie de la parole et de la diaconie de la liturgie. Nous le voyons d'ailleurs aussitôt après l'institution des premiers diacres, quand Étienne prêche l'évangile devant ses corégionnaires jusqu'au martyr de la lapidation. Quand nous voyons le diacre Philippe catéchiser l'eunuque de la reine Candace d'Éthiopie et le baptiser séance tenante dans le Jourdain lorsqu'il adhère à la foi en Jésus mort et ressuscité, dont le serviteur souffrant de Yahvé disait qu'il était en train de lire à ce moment-là, éclaire la réalité. Tu seras donc député aussi à la prédication de l'Évangile. La remise de l'Évangélière comme rite complémentaire de ton ordination est le rite le plus significatif de l'ordination des diacres. Tu seras député à la prière liturgique. Tu serviras l'autel humblement le prêtre. Tu tiendras, au moment de la doxologie du canon de la messe, le calice du diacre et le ministre du sang qui lui rappelle qu'il est appelé à donner sa vie en rançon pour la multitude par le Christ, avec lui et en lui. Tu deviendras ministre ordinaire du baptême, la porte de la vie éternelle. Tu deviendras ministre ordinaire de la communion. Tu prendras sur l'autel le corps et le sang du Seigneur pour le distribuer aux fidèles. Mais il est significatif, je dirais même providentiel, Manuel, que tu sois ordonné aujourd'hui diacre alors que nous faisons mémoire de l'apôtre saint Thomas. Saint Thomas, dont la figure si attachante nous est rapportée par l'évangéliste saint Jean, qui éclaire d'une belle lumière ton engagement d'aujourd'hui et ton ordination comme diacre en vue du sacerdoce. Sans doute tous les évangiles nous rapportent le nom de Thomas dans la liste des 12 apôtres que Jésus a institués pour prolonger sa mission jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est saint Jean qui nous parle de Thomas et qui nous précise sa personnalité, qui éclaire encore une fois ton engagement d'aujourd'hui. La première fois que saint Jean met en scène l'apôtre Thomas, c'est peu avant la Passion, alors que Jésus avec ses disciples se tient à l'écart de Jérusalem, car il sait qu'à Jérusalem, il n'est pas bon se montrer en public, on l'attend pour l'arrêter, pour le livrer, peut-être pour le lapider. Alors il est dans une cachette où le rejoignent ses amis Marthe et Marie qui lui confient leur tristesse et leur douleur de voir leur frère Lazare, l'ami de Jésus, malade. Et voilà que Jésus dit à ses disciples, après avoir hésité quelques jours, « Allons en Judée, tous prennent peur. Mais tu ne te rends pas compte qu'il t'attend pour te lapider. » Et après l'explication lumineuse que leur donne Jésus, Thomas, au nom de tous les autres, ce qu'on pourrait attendre de Simon-Pierre, qui est celui qui a la plus grande bouche actuellement, n'est-ce pas, des Français, il dit à ses condisciples, « Eh bien, allons nous aussi pour mourir avec lui. » Quelle détermination, quelle force, quel courage. Thomas fait montre à ce moment clé et crucial de l'Évangile. Allons-nous aussi pour mourir avec lui, dont me voici de tout à l'heure, qui dit la disponibilité à recevoir aujourd'hui le diaconat, demain le presbytère, peut-être après-demain l'épiscopat. Veut dire ceci, allons nous aussi mourir avec lui. Le diacre, le prêtre, l'évêque sait que le jour de son ordination, à travers son aumônier, il a dit précisément cette parole de Thomas l'apôtre. Allons nous aussi pour mourir avec lui, pour donner notre vie jusqu'au martyr s'il le faut. Il en faudra de la force, il en faudra du courage au moment des épreuves et des difficultés pour continuer de dire avec la même détermination de Thomas, allons-nous aussi pour mourir avec lui. C'est la force que tu vas recevoir aujourd'hui. Tout à l'heure dans la prière de consécration ou d'ordination, je demanderai au Seigneur, envoie sur lui ton Esprit Saint. Par lui qu'il soit fortifié des sept dons de ta grâce pour remplir fidèlement son ministère. Autrefois, on disait, que je dis toujours, qu'on était ordonné bien, en latin, ça veut dire la force. Et nous avons demandé, dans la prière d'ouverture de cette messe, par l'intercession de saint Thomas, de reprendre courage, que le Seigneur t'inspire de reprendre courage au moment le plus difficile de ton ministère futur. Ce courage, le Seigneur te le donnera. Et il te le donnera en abondance. Il renouvellera sans cesse cette grâce de l'Esprit Saint que tu reçois aujourd'hui avec le caractère qui te configure au Christ serviteur. Cette force de l'Esprit Saint, par les sept dons de son esprit, qui te fortifiera jour après jour et jusqu'au bout de ta course. La deuxième fois que saint Jean nous parle de Thomas, c'est pendant les discours après la scène. Jésus est en train de révéler beaucoup de choses à ses disciples. Il leur parle de son départ. Il leur dit qu'il va leur préparer une place. Et il leur dit, là où je vais, vous savez le chemin. Et il y a la réaction de Thomas, sans doute au nom de tous les autres, qui ne comprend pas très bien. Un niveau de compréhension très peu élevé, n'est-ce pas? Nous ne savons même pas où tu vas. Comment nous pouvons savoir le chemin qui suscite cette révélation magnifique de Jésus et qui nous touche particulièrement encore aujourd'hui? Moi, je suis Yahvé, le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes El Camino, la Verdad et la Vida. Le chemin qui nous conduit à la vérité tout entière, qui nous conduit à la vie en abondance dans le monde, pour que nous ayons la vie. C'est ce que nous avons demandé aussi lors de la prière de l'ouverture de cette messe. En tout cas, cette question de Thomas nous donne le droit, nous aussi, de demander des explications au Seigneur quand nous ne comprenons pas. Seigneur, je ne comprends pas, écoute-moi. Donne-moi de comprendre cet événement de ma vie. Et tu sais que cela te rejoint particulièrement, Manuel. Parce que quand tu es revenu de l'itinérance, je me souviens, tu en as témoigné toi-même dans la lettre que tu m'as adressée pour être en le diacre, le recteur me l'a confirmé. Quand tu es revenu au séminaire alors que tu approchais les 50 ans, que tu accomplis maintenant, n'est-ce pas? Tu as commencé à douter. Tu as été bouleversé en toi-même. Tu ne savais plus si ta place était encore là, au séminaire, dans cette voie sur laquelle le Seigneur t'avait pourtant engagé. Après avoir mûrement réfléchi avec tes catéchismes. Et précisément, cette explication que tu l'as demandé au Seigneur, je sais que ce fut un temps très important pour toi d'approfondir ton intimité avec Jésus, de grandir dans ton amitié avec lui. À travers une prière insistante, tu lui as demandé, Seigneur, je ne comprends plus, donne-moi de comprendre, dissipe mes doutes. Et il t'a apporté la lumière, il t'a apporté la paix, cette paix dans laquelle je te vois aujourd'hui. Même si tu es peut-être un peu dans l'émotion, mais tu es dans la paix, parce que le Seigneur t'a donné la lumière. Il a répondu à ta demande d'explication. Nous avons le droit, chers frères et sœurs, de demander des explications, mais de demander au Seigneur et pas au monde, lui seul, à les paroles de la vie éternelle. Et puis la troisième fois, c'est dans cet évangile que nous entendons de tout le Nouveau Testament, pour la première fois, un homme dit à Jésus, qui lui apparaît ressuscité, « Mon Seigneur et mon Dieu !» Sans doute, là encore, il a été en proie au doute. Il n'a pas voulu croire parce qu'il n'était pas là. Le premier soir, lorsque Jésus était apparu ressuscité au milieu de ses disciples, il n'était pas là et il n'a pas voulu croire dans le témoignage de ses frères. Nous avons vu le Seigneur. Et regardez bien ce doute, Thomas, qui n'est pas un doute sec, fermé, mais qui est un doute ouvert, car il sait que ce qui permettra de vérifier la résurrection du Christ, c'est la présence dans son corps ressuscité des stigmates de sa passion. Tant que je n'ai pas mis mon doigt dans les traces des clous, tant que je n'ai pas mis ma main dans son côté transpercé, non, je ne croirai pas. Magnifique. Comme si le Seigneur voulait, à travers cette résistance à la foi de ses apôtres, donner à Thomas comme aux autres ce privilège de leur apparaître pour les confirmer dans la foi afin qu'ils puissent annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre et que cette parole de l'Évangile puisse nous atteindre, nous qui n'avons pas vu mais qui croyons sur le témoignage des apôtres. Heureux es-tu parce que tu as vu et tu as cru, mais heureux plus encore ceux qui croient sans avoir vu. C'est nous sans doute qui n'avons pas vu mais qui croyons ceux qui ont vu. Et Thomas aussi a vu. Toi aussi, tu peux dire aujourd'hui, mon Seigneur et mon Dieu, selon cette catéchèse, n'est-ce pas, des catéchèses initiales du chemin de l'Écuménale, où l'on pose la question, qui est Dieu? Pas seulement qui est Dieu, mais qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu pour toi? Toi qui as fait l'expérience, en effet, de l'intervention de Dieu, de son amour, de sa miséricorde dans ta vie, qui est venu dissiper tes doutes et qui est venu confirmer ta foi dans le Christ ressuscité, qui te donne à toi aujourd'hui et à nous tous, à l'occasion de ton ordination diaconale, la paix. La paix sur tes doutes. Pour que tu sois toi-même un témoin de cette paix. Et enfin, la quatrième fois que Saint Jean met en scène Thomas, c'est lors de la troisième apparition à ses apôtres. Nous sommes au bord du lac de Tibériade, en Galilée. Et Thomas, pour la première fois, est cité immédiatement après Simon-Pierre. C'est dire la réputation dont il jouissait dans la première communauté chrétienne. D'ailleurs, nous avons des actes et un évangile apocryphe qui porte le nom de Thomas, qui pourrait être apocryphe, ne nous renseigne pas moins sur la vie de la première communauté chrétienne. C'est dire combien il est aussi un témoin privilégié de la résurrection. Et depuis la plus antique tradition, nous savons et nous apprenons que Thomas a évangélisé la Syrie, puis la Perse, et qu'enfin il est allé jusqu'en Inde occidentale, puis en Inde méridionale, où son tombeau est encore vénéré aujourd'hui par les fidèles de l'Église catholique, sans doute par bien d'autres. Thomas l'apôtre, Thomas le missionnaire, je n'oublie pas, n'est-ce pas, que lors de cette nuit de veille que tu as passée avec ton recteur devant le Saint-Sacrement, pendant 6 heures d'affilée, dans la nuit de mercredi à jeudi, où vous avez dit ensemble le Fils de lecture, où vous avez dit la liturgie des œuvres, qui t'est confiée aujourd'hui comme un ministère très important, dans lequel il faudra être très exact, parce que c'est la prière d'intercession. Continue dans l'Église jusqu'à la fin du monde pour l'Église et pour le monde. Le cœur à cœur avec Jésus dans l'adoration eucharistique. Et puis à un moment clé de cette nuit, selon l'usage, tu as demandé une parole au Seigneur, n'est-ce pas? Tu ouvres ta Bible. Au hasard. Un hasard qui s'écrit avec un grand père, qui veut dire providence, n'est-ce pas? Et tu es tombé sur ce passage des Actes des Apôtres, au chapitre 26, versets 24 à 32, n'est-ce pas? C'est un moment très important dans la vie de Paul. Paul qui veut témoigner jusqu'à Rome, et qui pour l'instant est à Césarée, qui témoigne devant ses détracteurs, qui l'accuse de relouer leur Festus. Et Festus est bien embarrassé. Il parle du Christ mort et ressuscité, qui est mort mais qui est vivant. D'ailleurs, c'est la parole qui a résonné dans le cœur de Kiko, lorsque pour la première fois, il a annoncé l'évangile à cette communauté de gitans, dans les baraques de Madrid, et que le Seigneur lui a inspiré tout ce chemin d'initiation chrétienne, qui est le chemin du catéchuménat. Mais toi, c'est un petit peu après que cette parole a résonné dans ton cœur. Elle a résonné au moment où, après avoir témoigné du Christ mort et ressuscité, avoir proclamé le kérigme, Festus lui dit « Mais tu es complètement fou, arrête de parler comme ça !» Et Agrippa, le roi Agrippa, l'arrière-petit-fils, je crois, d'Hérode le Grand, qui a grandi à la cour impériale, mais à qui l'empereur a consenti d'être à nouveau le roi de Judée, est touché par les paroles de Paul. Et Paul le dit publiquement, je sais qu'Agrippa comprend ce que je suis en train de dire, et lui de rétorquer, il s'en fout peu quand écoutant je deviens un chrétien. Quelle belle confirmation de ta vocation à être prêtre avec une dimension particulièrement missionnaire. Toi qui es issu de ce chemin néo-catéchuménal qui veut annoncer l'évangile, en particulier à ceux qui sont loin, leur permettre, à l'écoute de la proclamation du kérigme, de la mort et de la résurrection du Christ, d'adhérer à Jésus-Christ et d'entrer sur le chemin qui donne la vérité et la vie. Quelle belle confirmation de cette dimension missionnaire de ta vocation de diacre et demain de prêtre. Heureux, chers frères et sœurs, comme dit Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui, ceux qui croient sans avoir vu. Bien sûr que cela nous concerne tous, mais je pense bien que lorsque Jésus a prononcé cette parole au Cénacle, il a pensé à sa mère, la Vierge Marie. Elle qui, au dire de l'Évangile, même si je veux croire qu'elle ait reçu au matin de Pâques la visite de Jésus ressuscité, n'a pas eu une apparition qui méritait d'être mentionnée. Parce qu'elle croit sans avoir vu, dès le samedi saint, lorsque Jésus est au tombeau, elle croit que le Christ ressuscitera. Et à l'instant T de la résurrection de Jésus, elle croit que son Fils est ressuscité. Alors maintenant, nous allons prier tous les saints du ciel, et très particulièrement la Vierge Marie que vous invoquez ici, comme Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, qui sera la mère de ta participation à la rédemption à travers ton diaconat et ton sacerdoce. Prie la Vierge Marie, confie-toi particulièrement à elle, qu'elle t'englobe toi-même aujourd'hui dans cette béatitude de Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Amen.